Chapitre 2. Vers minuit, les ouvriers du marchand et Polycaille furent réveillés par des coups violents à la porte. C'étaient les trois conscrits venus de Podskorski, Kurashkin, Mityushkin et Ilia, le neveu de Dutlov, accompagnés du bailli et de leurs parents. Une veilleuse brûlait dans la cuisine. La cuisinière dormait sur le banc placé sous les images. Elle se leva en hâte et alluma une chandelle. Polycaille se réveilla aussi et examina les nouveaux arrivés du haut de son poêle. À mesure qu'ils entraient, ils faisaient le signe de la croix et s'installaient sur le large banc sous les images. Tous calmes et tranquilles, ils causaient de choses indifférentes, et au premier coup d'œil, on avait de la peine à distinguer quels étaient les conscrits. « Eh bien, mes enfants, soupons-nous ou bien nous couchons-nous à jeun ?»« Nous soupons, » dit Ilia d'une voix avinée, « et on va chercher de l'eau de vie. » « Tu as déjà assez bu, » lui répondit le bailli, et s'adressant aux autres, « mangeons du pain sec pour ne déranger personne. » « Donne-nous de l'eau de vie !» insista Ilia, sans regarder personne. Les paysans sortirent de leur bissac du pain qu'ils avaient apporté avec eux. Ils le mangèrent, burent quelques gorgées d'eau, et se couchèrent les uns sur le poêle, les autres par terre. Ilia répétait de temps en temps, « Veux-tu me donner de l'eau de vie ?» Il aperçut tout à coup la tête de Polycaille. « Ilitch, Ilitch, t'es ici, cher ami ?»« Ben, je suis l'un des conscrits, le sais-tu ? J'ai fait mes adieux à ma pauvre vieille mère et à ma femme, ce qu'elles ont hurlé. »« Oui, ben voilà, soldat, tu veux m'offrir de l'eau de vie ?»« Je n'ai pas d'argent, » répondit Polycaille. « Espère en Dieu, peut-être te réformera-t-on » continua-t-il pour le consoler. « Non, frère, je suis comme un jeune sapin, jamais j'ai été malade. On ne peut souhaiter un meilleur soldat que moi. » Polycaille raconta comment un paysan avait donné un papier bleu, billet de 5 roubles, au médecin qui le libéra. Ilia s'approcha du fourneau et bavarda. « Non, Ilitch, tout est fini, je ne veux pas rester moi-même. » « Mon oncle m'a sacrifié. Crois-tu que nous aurions pu acheter un remplaçant ? Mais non, il n'a pas voulu. Il a plein d'argent. Moi, on me sacrifie, je ne suis qu'un neveu. Ce qui me fend le cœur, c'est la douleur de ma mère. Ma pauvre femme, elle se démenait, la pauvrette. La voilà femme de soldat. Pourquoi nous avoir mariés ? Enfin, elles viendront toutes les deux demain. » « Mais pourquoi vous a-t-on déjà amené ? Il n'en était même pas question, et tout à coup... »« Ils ont peur que je me tue, » répondit Ilia en souriant. « Il n'y a pas de danger. Je serai toujours tiré d'affaire, même étant soldat. La seule chose qui m'afflige, c'est de penser à la douleur de ma pauvre mère et de ma femme. Pourquoi m'ont-ils marié ? Continua-t-il d'une voix triste et mélancolique. » La porte s'ouvrit, puis se referma sans bruit. C'était le vieux Dutlov qui entrait, secouant ses habits, son chapeau couvert de neige, les pieds chaussés de la ptisse. « Afanassi, » dit-il en s'adressant au portier, « avez-vous une lanterne ? Je voudrais donner de la voix à nos chevaux. » Dutlov jeta un regard sur Ilia et alluma un petit reste de chandelle. Ses gants et son fouet étaient enfoncés derrière sa ceinture, sa figure paisible et tranquille comme s'il ne s'agissait que d'une simple commission qu'il venait de faire en ville. Ilia, en voyant son oncle, se tut instantanément, puis s'adressant au bailli, il lui dit d'une voix sombre, « Hermile, donne-moi de l'eau de vie !»« De l'eau de vie, c'est pas le moment, tout le monde est déjà couché !» Toi seul, tu es turbulent. » Ce mot turbulent lui inspira l'idée de l'être. Bailli, si tu me donnes pas de l'eau de vie, je ferai du scandale. Cesse, il y a, cesse donc, lui répondit le bailli avec douceur. Il n'avait pas fini qu'Ilia se leva précipitamment, s'approcha de la fenêtre et la brisant d'un coup de poing, s'écria « si vous voulez pas faire ce que je vous demande, eh bien tenez, je vais briser l'autre !» Polyqueï, en un clin d'œil, se cacha au fond du poêle. Le bailli jeta son morceau de pain et accourut vers la fenêtre. Doutelof mit sa lanterne par terre, ôta sa ceinture et s'approcha d'Ilia, qui se débattait entre les bras du bailli et du portier. Il le tenait déjà, lorsqu'il aperçut son oncle qui s'approchait, la ceinture en main, et il fut pris d'un accès de rage. Il se débarrassa de ses deux adversaires, et les yeux injectés de sang s'avança vers Doutelof. « Je te tuerai, ne t'approche pas, être barbare. Tu m'as perdu. Toi et tes brigands fils, vous m'avez perdu. Mais pourquoi m'avez-vous marié? N'approche pas, te dis-je, ou je ne réponds pas de moi. » Ilyushka était effrayant à voir, tout son jeune corps tremblant, la figure bleue, les yeux lui sortant de l'orbite. Il semblait capable de tuer les trois paysans qui cherchaient à le terrasser. « Tu bois le sang de ton frère, buveur de sang !» Un éclair passa sur la figure du vieux Doutelof. Il fit un pas en avant. « Tu veux pas m'écouter, alors je vais pouvoir obliger d'employer la force. » D'un mouvement rapide, il terrassa son neveu, le jeta par terre et, à l'aide des deux paysans, lui retourna les mains derrière le dos et les attacha. « Je t'avais bien prévenu qu'il ne fallait pas faire de bruit. Te voilà bien avancé. Allez, mettez-lui sa pelisse sur la tête, » dit-il en l'étendant sur le banc. Ilia, les cheveux en désordre, pâle, regardait de tous côtés comme s'il cherchait à se rappeler où il était et ce qui lui était arrivé. Le bailli reprit son morceau de pain. « Mon pauvre Ilia, je te plains de tout mon cœur, mais que veux-tu faire ? Kourachkine aussi est marié. Il ne dit rien, cependant. Mais je suis la victime de mon oncle, de mon monstre d'oncle. C'est un ladre qui regrette son argent. Maman m'a dit que l'intendant lui proposait un remplaçant. Il n'a pas voulu, disant qu'il n'avait pas les moyens. Et pourtant, je lui ai rapporté bien de l'argent, puis je suis venu m'installer chez lui. C'est un monstre. » Le vieux Doutelof revint avec sa lanterne qu'il posa par terre. Il fit le signe de la croix et s'assit à côté du bailli. Ilia se tut, ferma les yeux et leur tourna le dos. Du doigt, le bailli le montra à Doutelof. « Crois-tu que cela me fait pas de la peine ?» lui dit Doutelof. « C'est le fils de mon frère. On lui a persuadé que j'étais un monstre. Est-ce sa femme qui lui a persuadé que j'avais de l'argent pour acheter un remplaçant? Est-ce quelque autre? J'en sais rien. Le fait qui m'en veut et que cela me fend le cœur. C'est un bien brave garçon, mais je ne me sens pas le courage de voir son désespoir. Demain, sa femme et mon fils viendront. Moi, je m'en retourne. Envoie tes enfants et va-t'en en paix, lui répondit le bailli en grimpant sur le poêle. Si on avait de l'argent, on n'aurait certainement pas hésité à racheter un remplaçant, dit l'un des ouvriers au marchand. Oh, l'argent, l'argent, mais que de crimes ont été commis en son nom. L'Écriture nous enseigne à le mépriser et à le craindre. Quand il eut fait les prières, le vieux Doutelof jeta un regard sur son neveu. Il dormait paisiblement. Alors il s'approcha de lui, relâcha ses mains et se coucha à son tour. Aussitôt que tout rentra dans le silence, Polyqueï descendit sans bruit comme un coupable et se prépara à s'en aller. Il ne se sentait pas le courage de passer la nuit avec les conscrits. les coqs avaient déjà chanté. Tambour avait fini sa ration d'avoine et demandait à boire. Ilitch l'attela et le mena par la bride vers la porte cochère. Le chapeau et son contenu étaient sains et saufs, et Polykei, s'installant sur sa charrette, partit le cœur léger. Quand la ville fut derrière lui, il se sentit plus à son aise. Tant qu'il se trouvait avec les conscrits, il lui semblait qu'on allait le saisir et le mener à la place d'Ilia. Il était pris d'un frisson et fouettait en tambour pour s'éloigner au plus vite des conscrits. La première personne qu'il rencontra fut un prêtre. Une terreur superstitieuse s'empara de lui. Il y chota son chapeau et palpa l'enveloppe. Elle était toujours en place. Si je la cachais dans ma poitrine, mais pour cela il faudrait ôter ma ceinture. Bon, je vais le faire aussitôt que je descendrai la montagne. Bon, le chapeau est bien recousu, la lettre ne pourra pas tomber. Je me découvrirai plus tard peut-être que jusqu'à la maison. Tambour descendit la montagne au galop. Polykei, qui avait tout autant de hâte de revenir au logis, ne s'y opposa pas. Tout allait pour le mieux et notre homme se plongea dans des rêveries agréables, se représentant la reconnaissance de sa maîtresse, la joie de sa famille et espérant une bonne gratification. Il ôta encore une fois son chapeau, palpa la bienheureuse enveloppe et enfonça davantage son couvre-chef. Le jour commençait à poindre. Son étoffe du chapeau était usée, et comme Akulina l'avait recousu avant lui, avec soin d'un côté, le côté opposé se déchira et l'enveloppe fut mise à découvert. Polykei, qui n'avait pas dormi toute la nuit, finit par s'assoupir. Sa tête suivait les mouvements de la charrette, et l'enveloppe sortait de plus en plus du trou qui s'était fait dans l'étoffe. Il ne se réveilla que près de la maison. Son premier mouvement fut de saisir son chapeau. Il était bien enfoncé sur sa tête. Rassuré complètement, il ne s'inquiéta pas de voir si l'enveloppe s'y trouvait encore. Il s'arrangea et, regardant fièrement autour de lui, fouetta tambour. Voici la cuisine, le comptoir. Voici la femme du charpentier qui porte de la toile. Voici la maison de madame. Polykei prouvera tout de suite qu'il s'est montré digne de la confiance qu'on avait eue de lui. Déjà, il entendait la voix de la maîtresse qui lui disait « Merci, Polykei. Voici 3, 5, peut-être même 10 roubles. » Elle lui offrirait un verre de thé, de l'eau de vie. Après ce voyage, un verre de thé serait le bienvenu. Avec 10 roubles, on peut acheter une paire de bottes neuves et payer sa dette à Nikita, qui devient insupportable. À 100 pas devant la maison, il s'arrangea encore une fois, ôta son chapeau, posa la main sous la doublure, et se mit à fouiller fiévreusement. Rien! L'enveloppe avait disparu. Polykei, pâle comme la mort, arrêta le cheval et se mit à chercher dans le foin, dans ses poches autour de lui. Toujours rien. « Mais Seigneur, qu'est-ce donc ? Qu'est-ce que c'est donc ? » hurla-t-il en se prenant la tête. Il se souvint qu'on pouvait le voir. Tourna bride et rebroussa chemin. Je déteste voyager avec Polykei, se dit Tambour mécontent. Une seule fois dans la vie, il m'a nourri et abreuvé à temps, et maintenant que me voilà près du logis, il me joue le tour de me faire rebrousser chemin. Allons, sacré animal, criait Polykei en rouant le cheval de coups. De toute la journée, personne ne vit Polykei. Madame envoya plusieurs fois demander de ses nouvelles. Akulina répondit qu'il n'était pas encore de retour, que probablement le marchand l'avait retenu, ou bien que le cheval s'était mis à boiter. Akulina parlait d'une voix calme, mais son inquiétude allait toujours croissant. Occupée des préparatifs de la fête du lendemain, elle cherchait à ne pas penser à son mari. C'était en vain, son ouvrage n'avançait pas. Une tristesse immense s'empara d'elle. Elle se tourmentait d'autant plus que la femme du charpentier prétendait avoir rencontré sur la grande route une charrette et un homme qui ressemblaient singulièrement à Polychée. Les enfants attendaient aussi leur père avec impatience, mais pour des raisons toutes différentes. Il avait emporté tous les vêtements chauds, et les petits se voyaient obligés de garder la chambre ou de faire quelques pas devant la maison. Le froid était si vif qu'ils n'osaient se hasarder bien loin. Seuls, la maîtresse et Akulina pensaient à Polychée. Les enfants n'attendaient que des vêtements chauds. Lorsque madame demanda à Yegor Ivanovitch des nouvelles de Polychée, il répondit avec un sourire malicieux. Mieux, il n'est pas encore de retour, madame, et pourtant il y a bien longtemps qu'il devrait être à la maison. Plus tard seulement, on apprit que des paysans d'un village voisin avaient aperçu Polychée courant sans chapeau le long du chemin et demandant à tous les passants s'ils n'avaient pas trouvé une lettre. Un autre homme l'avait vu dormant au bord du chemin, le cheval et la charrette attachés à un arbre. « J'ai même pensé, dit le paysan, qu'il était ivre et que le cheval n'avait ni bu ni mangé tellement qu'il avait maigri. » Akulina ne put fermer l'œil de toute la nuit. Elle attendait toujours anxieusement le retour de son mari. Si elle avait été seule, si elle avait eu un cuisinier, une femme de chambre, elle aurait été bien plus malheureuse. Mais elle avait une famille sur les bras et de la besogne pour deux. Au premier chant du coq, elle se levait pour mettre les pains au four, préparer le dîner, traire la vache, repasser le linge des enfants, les laver, les nettoyer, apporter de l'eau, etc., etc. Il faisait déjà grand jour. Les cloches annonçaient le service du matin, et Polychée ne revenait toujours pas. La veille au soir, une neige épaisse était tombée, et comme pour célébrer le jour de fête, un soleil radieux éclairait la terre. Akulina, occupée près du four, n'entendit pas le bruit des roues de la charrette. « Papa est arrivé !» dit la petite Machka en s'élançant à la rencontre de son père. En passant devant Akulina qui avait déjà mis sa robe de dimanche, elle la saisit de ses petites mains sales et reçut une claque. « Voulez-vous cesser ?» cria Akulina qui ne pouvait quitter son fourneau. Ilitch entra avec ses paquets et s'assit sur le bord du lit. Il sembla à Akulina qu'il était bien pâle, qu'il avait une drôle de figure comme s'il avait beaucoup pleuré, mais occupé de ses pains, elle n'y fit pas grande attention. « Eh bien, Ilitch, tout s'est-il bien passé heureusement ?» Ilitch murmura quelque chose d'inintelligible. « Qu'est-ce que tu dis ? » lui cria-t-elle. « As-tu été chez madame ?» Ilitch, assis sur le lit, souriait de son sourire triste et profondément malheureux, sans répondre aux questions de sa femme. « Hé, Ilitch, pourquoi as-tu été si longtemps absent ?» continua Akulina. « Moi, Akulina, j'ai rendu l'argent à madame. » « Si tu savais comme elle m'a remercié, » dit-il en jetant un regard inquiet autour de lui. Deux objets attiraient tout particulièrement son attention, l'enfant dans le berceau et les cordes qui retenaient le berceau. Il s'approcha et de ses doigts fins se mit à défaire les nœuds de la corde, puis ses yeux s'arrêtèrent sur le bébé qui dormait paisiblement. À ce moment, Akulina arriva avec un plat de galettes. Ilitch cacha la corde dans sa poitrine et s'assit sur le lit. « Qu'as-tu, Ilitch ? Tu n'es pas à ton aise ?» lui demanda Akulina. « Ben, je n'ai pas dormi. » On vit une ombre devant la fenêtre. C'était Atsutka, la femme de chambre de madame. « Madame ordonne à Polikei Ilitch de venir immédiatement, » dit-elle, essoufflée, comme toujours. « Immédiatement, n'est-ce pas ?» Polikei regarda Akulina, puis Atsutka. « Je viens, oui, mais comme veut-elle » dit-il d'un ton si calme qu'Akulina le tranquillisa immédiatement. « Elle veut me donner une gratification, probablement. Bon, tu diras que je viens tout de suite. » Il se leva et sortit. Akulina prit un baquet et le remplit d'eau tiède. « Viens, Mashka, dit-elle, que je te lave. » Mashka se mit à hurler. « Viens, galeuse, que je te mette une chemise propre. Dépêche-toi, je veux encore laver ta sœur. » Pendant ce temps, Polikei, au lieu de suivre la femme de chambre, se dirigea d'un côté tout opposé. Dans l'antichambre se trouvait un escalier rapide qui menait au grenier. Il jeta autour de lui rapidement un regard et, voyant qu'il était seul, monta rapidement jusqu'en haut. « Mais qu'est-ce que cela veut dire que Polikei ne vienne pas ?» dit la maîtresse, avec impatience en s'adressant à Dunyasha qui la coiffait. « Où est Polikei ? Pourquoi ne vient-il pas ?» Atsutka retourna de nouveau chercher Polikei. « Mais alors tant qu'il est parti, » répondit Akulina, qui après avoir lavé Matsushka, se préparait à nettoyer le bébé. Il criait et se débattait, pendant que sa mère, soutenant son petit corps d'une main, le frottait de l'autre avec un morceau de savon. Ben « Regarde, s'il ne s'est pas endormi en chemin, » dit-elle avec inquiétude. La femme du charpentier, décoiffée, soutenant ses jupons, montait au grenier pour y prendre une robe. Un cri d'horreur retentit, et les yeux fermés, la figure bouleversée, elle descendit l'escalier 4 à 4. « Ilitch !» cria-t-elle, suffoquée. Akulina laissa tomber l'enfant. « Il s'est étranglé !» hurla la femme du charpentier. Sans voir que l'enfant était tombé à la renverse dans le baquet d'eau, Akulina accourut dans l'antichambre. « Il s'est pendu à la poutre !» dit la femme du charpentier en apercevant Akulina. Akulina s'élança sur l'escalier et avant qu'on ait pu l'en empêcher, elle grimpa les marches. À la vue du spectacle qui s'offrait à ses yeux, elle tomba à la renverse comme une masse inerte dans les bras des voisins accourus à la hâte. Une confusion complète régna quelques minutes. Accourus en grand nombre, tous parlaient à la fois. Akulina, étendue sur le plancher, ne revenait toujours pas à elle. Enfin, l'intendant, le charpentier et d'autres hommes arrivèrent. Ils montèrent au grenier, et la femme du charpentier recommença pour la 20e fois au moins son récit. « Mais j'étais allé chercher ma robe, ne pensant à rien d'autre. Quelle fut ma terreur quand j'aperçus un homme debout, son chapeau à côté de lui, la doublure retournée. Je vois 2 pieds qui se balancent, j'ai froid dans le dos. Je comprends enfin que c'est Polikei qui s'est pendu. Est-ce terrible que je sois obligé de voir un spectacle pareil ? Oh, je me souviens pas comment j'ai descendu les marches de l'escalier. C'est Dieu qui m'a sauvé, j'aurais pu me casser la tête. » Les hommes qui étaient montés racontèrent aussi qu'Ilitch s'était pendu à la poutre, en manches de chemise et en pantalon, avec la corde qu'il avait prise au berceau de son enfant. Son chapeau, La doublure retournée se trouvait à côté de lui. La pelisse et le caftan pliés soigneusement étaient sur une poutre. Les pieds touchaient la terre, mais ils ne donnaient plus le moindre signe de vie. Revenue à elle, Akulina s'élança sur l'escalier, mais on ne lui permit pas de le gravir. Maman, Semka est toujours dans le bain, dit la petite Machka. Il a l'air d'avoir bien froid. Akulina courut précipitamment dans son coin. L'enfant était étendu dans le baquet, ses petits pieds étaient complètement immobiles. Elle le prit dans ses bras, il ne bougeait pas. Elle le jeta sur le lit et jeta un grand éclat de rire qui retentit dans toute la maison. La petite Machka, qui se mit à rire aussi, fut effrayée en voyant la figure décomposée de sa mère et s'enfuit en criant. La foule entrait dans le coin de Polikaï. On emporte l'enfant, se met à le frictionner, peine perdue. Il était bien mort. Akulina, renversée sur le lit, riait toujours et son rire remplissait d'horreur la foule. La femme du charpentier, s'adressant aux personnes qui n'avaient pas entendu son histoire, la recommençait avec des nouveaux détails. Le vieux sommelier, vêtu d'un casaquin de sa moitié, racontait comment, dans le temps, une femme s'était noyée dans l'étang. La femme de chambre, Akiuska, qui avait collé l'œil à une fente dans le mur, cherchait en vain à apercevoir le corps de Polikaï. Agéphia, l'ancienne femme de chambre de madame, réclamait une tasse de thé pour calmer ses nerfs. Grand-mère Anna arrangeait de ses vieilles mains inexpérimentées le petit corps de l'enfant et le couchait sur la table. Les femmes, groupées autour d'Akulina, la regardaient en silence. Les enfants, se serrant les uns contre les autres, examinaient leur mère et se mettaient à hurler aussitôt qu'ils entendaient son rire. Des paysans, des enfants, entouraient en foule la maison et se demandaient ce qui était arrivé. L'un disait que le charpentier avait coupé la jambe à sa femme d'un coup de hache. L'autre prétendait que la blanchisseuse avait accouché de 3 enfants. Le troisième racontait que le chat du cuisinier, dans un accès de rage, avait mordu beaucoup de gens. Mais peu à peu, la nouvelle du malheur se répandit et arriva jusqu'aux oreilles de madame. Yegor lui raconta ce qui était arrivé sans la préparer et lui ébranla les nerfs à tel point qu'elle fut longtemps à se remettre. La foule commençait déjà à se calmer. La femme du charpentier alluma le samovar et se préparait à faire le thé. Les personnes qui n'avaient pas été invitées par elle crurent de leur devoir de se retirer. La curiosité des personnes présentes était satisfaite. Elles commençaient là à se retirer lorsque quelques voix crièrent: Voici madame! Voici madame! Et la foule afflua de nouveau vers l'entrée de la cabane, se demandant ce que madame venait faire ici. Madame, pâle, les yeux rougis, entra dans le coin d'Akulina. Toutes les têtes se serrèrent les unes contre les autres pour voir madame de plus près. Une femme enceinte fut à moitié écrasée, mais elle ne put se décider à se retirer. C'était si intéressant de voir madame, vêtue de dentelle et de soie, dans cet humble logis. Que ferait-elle? Que dirait-elle? Madame s'approcha d'Akulina et la prit par la main. L'autre la repoussa, cette main, avec violence. Les vieux serfs secouèrent leur tête d'un air mécontent. Akulina, dit madame, tu as des enfants, pense à eux. Akulina se leva en éclatant de rire. Les enfants sont tous en argent, tous en argent. J'aime pas le papier, murmura-t-elle précipitamment. Je disais bien à Élie de ne jamais accepter le papier, il m'a pas écouté. Et elle se remit à rire de plus belle. Donnez de l'eau froide, dit madame en cherchant une cruche de tous côtés. Mais s'étant retournée, elle aperçut le petit cadavre étendu sur la table que grand-mère Anna continuait à habiller. Madame se retourna et tout le monde vit qu'elle se couvrait la figure d'un mouchoir pour cacher ses larmes. Quant à grand-mère, c'était bien dommage que madame ne vît rien, elle aurait apprécié, et c'était à son intention que grand-mère Anna le faisait. Quant à grand-mère, elle couvrit l'enfant avec un linge, arrangea sa petite main, secoua la tête d'un air navré et soupira si profondément que madame aurait pu apprécier son bon cœur. Mais madame ne s'aperçut de rien. Elle se mit à sangloter et fut prise d'une attaque de nerfs. C'était pas la peine de venir, se dirent les paysans en s'en allant. Akulina continuait à rire. On l'emmena dans une chambre voisine. On la saigna, on la couvrit de sinapisme. Rien n'y fait, rien n'y fit. Elle riait toujours de plus belle. La fête ne fut pas gaie à Pokrovski. Malgré un temps superbe, le peuple ne se disait pas à se promener. Les jeunes filles ne faisaient pas de ronde, les garçons ne jouaient pas de l'harmonica, ni de la balalaïka. Tout le monde restait dans un coin, et l'on ne parlait qu'à voix basse. Tant qu'il fit jour, cela allait encore. Mais le soir, lorsque les chiens se mirent à hurler, que le vent siffla avec force, tous les paysans furent pris d'une telle terreur qu'ils allumèrent des cierges devant les images. Ceux qui étaient seuls allèrent demander l'hospitalité à leurs voisins. Les chevaux et les bêtes furent oubliés. Personne ne se décidait à aller dans l'obscurité de l'étable leur donner à manger. Toute l'eau bénite que l'on avait conservée dans de petits flacons à côté des images fut employé cette nuit-là pour asperger la cabane. Akulina et les enfants furent emmenés dans une autre maison. Seul le petit bébé restait étendu sur la table. Madame avait envoyé deux vieilles femmes et une nonne voyageuse pour faire les prières. Elles prétendirent toutes qu'aussitôt qu'elles cessaient de prier, on entendait remuer et soupirer au grenier. Mais dès qu'elle disait « Jésus, lève-toi et que tes ennemis se dispersent », le silence se rétablissait. La femme du charpentier invita une de ses amies et passa la nuit à prendre du thé et à bavarder avec elle. Elle prétendait aussi toutes les deux avoir entendu craquer le plancher du grenier. Les paysans qu'on avait placés dans l'antichambre de la cabane racontait aussi des choses extraordinaires. En haut, chez la maîtresse, tout le monde était sur pied. Madame était malade. Trois femmes de chambre la soignaient. Dunyasha, la principale, s'occupait à préparer du cérat. Aussitôt que madame était malade, on préparait du cérat. Toutes trois, réunies à l'office, causaient à voix basse. « Mais qui est-ce qui ira chercher de l'huile pour le cérat ?» demanda Dunyasha. « Bon, je n'irai pour rien au monde, » répondit la seconde femme de chambre d'un air résolu. « Mais voyons prendre Asiutka avec toi. »« J'irai toute seule, je n'ai peur de rien, » dit Asiutka. Asiutka releva sa robe et partit comme un éclair en balançant son bras resté libre. Dehors, elle fut prise d'une panique. Et il lui semblait que si elle rencontrait sa mère même, elle se mettrait à crier comme une folle. Elle courut le long du chemin bien connu, les yeux fermés. « Madame Dortel ou non ?» demanda une voix tout près de son oreille. Elle ouvrit les yeux et vit devant elle une personne qui lui semblait plus haute que la maison. En jetant un cri terrible, elle rebroussa chemin. Arrivée à l'office, elle se jeta sur le banc en sanglotant. Dounia Shah et la seconde femme de chambre furent prises de terreur lorsqu'elles entendirent dans l'antichambre les pas de quelqu'un qui avançait avec précaution. Dounia Shah se précipita dans la chambre de madame. L'autre se cacha derrière une armoire. La porte s'ouvrit et le vieux Dutlof entra. Il chercha une image et finit par faire le signe de la croix devant l'armoire vitrée où l'on mettait les tasses. Puis, sans prêter attention aux femmes de chambre, il plongea sa main dans sa poche et en sortit une lettre avec 5 cachets. « Mais tu es effrayé, Naoumitch, » dit la femme de chambre. « Je ne suis pas en état de prononcer un seul mot. Oh, je croyais que j'allais mourir. » « Vous avez dérangé madame, » dit Dounia Shah. « Pourquoi entrez-vous dans la chambre ? Vous êtes un vrai paysan ?» Dutlof, sans leur répondre, dit qu'il avait besoin de voir madame. « Madame est malade. » « C'est pour une affaire très importante, » dit-il. « Faites savoir à madame que Dutlof a trouvé une lettre avec de l'argent. » Dounia Shah, avant d'aller l'annoncer à madame, voulut voir l'enveloppe. Elle lut l'adresse et demanda à Dutlof où il avait trouvé la lettre qu'Ilitch devait apporter de la ville. Lorsque sa curiosité fut satisfaite, elle alla annoncer à madame la nouvelle. Au grand étonnement de Dutlof, madame ne voulut pas le recevoir. « Je ne veux rien savoir, » dit-elle à Dounia Shah. « Est-ce que je sais, moi, de quel paysan et de quel argent vous me parlez ? Je ne peux ni ne veux voir personne. Allez, qu'on me laisse tranquille. »« Que dois-je faire ?» demanda Dutlof en tournant l'enveloppe entre ses pauvres grosses mains. « C'est une grosse somme. » « Qu'est-ce qui est écrit là-dessus » demanda-t-il à Dounia Shah en lui tendant l'enveloppe. Il espérait toujours qu'on se trompait en lisant l'adresse, que cet argent n'appartenait pas à madame. Il soupira, mit l'enveloppe dans sa poche et se prépara à sortir. « Mais il faudra que je la remette au commissaire de police, » dit-il avec tristesse. « Attends, je vais essayer de persuader à madame de te voir, » dit Dounia Shah. « Donne-moi ta lettre. »« Oui, ben dites à madame que c'est Siemen Dutlof qui l'a trouvé sur la grande route. »« Bien, donne-la-moi. » »« Je croyais que c'était une lettre simple, mais un soldat a eu l'adresse et m'a dit qu'elle contenait de l'argent. »« c'est bon, allez, donne-moi la lettre. » « J'ai pas osé entrer chez moi, » continuait Dutlof, ne pouvant se séparer de son fardeau précieux. « Dites-le bien à madame. » Dounia Shah prit la lettre et la porta à madame. « mon Dieu, Dounia Shah, » dit-elle d'un ton de reproche, « ne me parle pas de cet argent, quand je pense au pauvre petit bébé. Mais le paysan ne sait ce qu'il doit faire de cette somme, » dit Dounia Shah. Madame décacheta l'enveloppe. À la vue de l'argent, elle frissonna des pieds à la tête. « Argent fatal ! Que de mal il fait !»« C'est Dutlof qui l'a apporté. Doit-il entrer ici ou bien madame ira-t-elle à l'office ?»« Je ne veux pas de cet argent, il est maudit. Quel mal il a fait, mon Dieu !» « Dis-lui qu'il l'emporte, » dit madame précipitamment. « Oui, répéta-t-elle à Dounia Shah stupéfaite, « qu'il l'emporte, qu'il en fasse ce qu'il voudra, et surtout que j'en entende plus parler. »« Mais 462 roubles, madame. »« Oui, mais qu'il les prenne tous, » répéta-t-elle avec impatience. « Tu me comprends donc pas. Cet argent est maudit, ne m'en va jamais. » « Que le paysan qui l'a trouvé l'emporte au plus vite. Allez, va donc, dépêche-toi. » Dounia Shah alla à l'office. « Toute la somme y est-elle ? » demanda Dutlof. « Tu compteras toi-même, » dit Dounia Shah, lui remettant l'enveloppe. « On m'a ordonné de te la donner. » Dyatlov mit son chapeau sur la table et commença à compter. Il avait compris que madame ne savait pas faire le compte elle-même. « Mais tu compteras à la maison, c'est pour toi tout cet argent, » dit Dunyasha indigné. « Je veux même pas le voir, » a dit madame. « Alors donne-le à celui qui l'a apporté. » Dyatlov regarda Dunyasha d'un air ahuri. La seconde femme de chambre ne put croire une chose aussi inouïe. « Voyons, vous plaisantez, Avdotya Nikolaïevna. » « Mais pas du tout, non, elle m'a dit de remettre l'argent aux paysans. »« Eh bien, allez, prends tes richesses et laisse-nous tranquille, » continua-t-elle d'un ton vexé. « Que voulez-vous, c'est toujours ainsi. Ce qui fait le malheur de l'un fait le bonheur de l'autre. » »« Mais voyons, c'est 462 roubles. » »« Eh bien oui, tu mettras un cierge de 10 kopecks à Saint-Nicolas, » répondit-elle avec ironie. « Tu comprends donc pas encore ? » ?»« Mais si c'était au moins un paysan pauvre, mais ce Richard de Dyatlov ?» Dyatlov finit enfin par comprendre que ce n'était pas une plaisanterie. Il ramassa les billets et les remit avec soin dans l'enveloppe. Pâle et tremblant, il regardait les jeunes filles, se demandant toujours si elles ne se moquaient pas de lui. « Il n'a pas encore compris, » dit Dunyasha d'un air moqueur, voulant montrer son mépris et pour l'argent et pour le paysan. « Donne un peu, que je te le ramasse. » Et elle voulut prendre l'argent. Mais Dyatlov ne lâcha pas prise. Il saisit les billets, les chiffonna et les enfonça dans sa poche. « Es-tu content ? » ?»« Mais je n'y comprends rien. » Il secoua la tête, tout ému, et sortit, les larmes aux yeux. Un coup de sonnette retentit dans la chambre de madame. « Eh bien, tu ne le lui as donné ?»«
Oui, madame. »«
En est-il content ?»«
Il est fou de joie, madame. »
Mais alors, appelle-le, je veux lui demander comment il l'a trouvé. Amène-le ici, je ne suis pas en état de me lever. »
Dunyasha courut et rattrapa Dyatlov dans l'antichambre. Il était en train de cacher l'argent dans une grosse bourse, lorsque Dunyasha l'appela. Il fut pris d'une frayeur inouïe.
« Qu'est-ce qu'il y a, Avdotya Nikolaïevna ? Est-ce qu'elle veut me reprendre l'argent ?»«
Prenez mon parti, Avdotya Nikolaïevna, je vous apporterai du miel. »«
C'est bon, c'est bon. »
La porte se rouvrit et le paysan entra dans la chambre de madame. Il avait le cœur gros. « Elle me le reprendra, » se disait-il avec tristesse. Il était comme dans un nuage. Les meubles, les fleurs, les tableaux, il ne distinguait rien. Enfin, une forme blanche lui adressa la parole, c'était madame.
« C'est toi, Dyatlov. »
« Oui, madame, je n'y ai pas touché, c'est intact. J'ai fouetté mon cheval tant que j'ai pu pour vous l'apporter au plus vite. »«
C'est ta chance, » dit-elle avec un sourire de mépris. « Prends-le, prends-le. »
Dyatlov ouvrit ses yeux démesurément.
« J'en suis contente pour toi. Dieu fasse que tu l'emploies bien. Et toi, tu es satisfait ?»«
Mais comment ne serais-je pas, madame ? Je suis si heureux, madame. Je vais prier Dieu pour vous toute ma vie. »
Comment l'as-tu trouvé ?
Nous avons toujours servi, madame, avec zèle et dévouement, pas comme les...
Il a perdu la tête, madame, dit Dunyasha. J'ai conduit mon neveu, le conscrit, madame, et en revenant, j'ai trouvé la lettre. Polika, il aura laissé tomber.
« Bon, eh bien, va-t'en, mon brave. »«
Oh, je suis si heureux, madame !» répétait le paysan.
Tout à coup, l'idée lui vint qu'il n'avait pas remercié sa maîtresse, mais ne sachant pas comment s'y prendre,
Il s'éloigna rapidement, tourmenté par l'idée qu'on allait le rappeler et lui enlever l'argent. Lorsqu'il fut enfin dans la rue, il alla se cacher à l'ombre des tilleuls, quoique la nuit fût sombre, ôta sa ceinture, prit sa bourse et se mit à ranger les billets l'un après l'autre. Ses lèvres remuaient tout le temps, quoiqu'il ne prononçât pas une parole. Il serra l'argent, remit sa ceinture, et s'en alla d'un pas chancelant comme un homme ivre. Il aperçut tout à coup un gros paysan devant lui, un grand bâton à la main. C'était Éphime qui se promenait devant la cabane de Polycaille. « Eh, oncle Doutlaf !» dit enfin Éphime avec joie. Il se sentait mal à son aise dans l'obscurité. « Oui, que fais-tu là ?»« Moi, on m'a mis pour surveiller la cabane où Polycaille s'est étranglé. » « Où est-il ?»« Oh, dit qu'il s'est pendu au grenier, » répondit Éphime. « Le commissaire est arrivé, paraît-il. On va tout de suite y aller. C'est bien effrayant, tout cela, pendant la nuit. Pourvu qu'on ne m'oblige pas d'y monter, il me semble que je me déciderai jamais. On me tuerait que je n'irai pas, je t'assure, oncle Doutlaf. »« Quel péché, mon Dieu, quel péché !» répétait Doutlaf pour dire quelque chose, en se demandant comment il pourrait s'esquiver au plus vite. Mais la voix de Yegor Ivanovitch l'arrêta. Hé, là-bas, gardien, viens ici. Tout de suite, monsieur, répondit Efimka. Qui est là avec toi? C'est l'oncle Doutlaf. Approche aussi, Doutlaf. En s'approchant, Doutlaf aperçut la figure de l'attendant. À côté de lui se tenait un inconnu, une casquette à cocarde sur la tête. « Le vieux ira aussi avec nous, » dit Yegor Ivanovitch. Le vieux fut pris de terreur, mais il n'osa répliquer. « Toi, Efimka, qui es jeune, monte vite au grenier où Polycaille s'est pendu. Arrange l'échelle pour que monsieur ne fasse pas de mal. » Efimka, qui quelques minutes auparavant avait déclaré qu'il ne monterait pour rien au monde, partit comme un trait. Le commissaire sortit son briquet et alluma sa pipe. Il était plein de zèle parce que deux jours auparavant, le chef de police l'avait réprimandé sévèrement pour sa passion pour le vin. Aussi, au à peine arrivé, voulut-il examiner le cadavre sur les lieux. Yegor Ivanovitch demanda à Doutlaf ce qu'il faisait. Chemin faisant, le vieux raconta à l'intendant l'histoire de la lettre de son entrevue avec madame. Doutlaf ajouta qu'il venait demander à l'intendant la permission de garder l'argent. Quelle fut son émotion lorsque ce dernier s'empara de l'enveloppe. Le commissaire lui fit un interrogatoire d'un ton sec et impérieux. « Mon argent est perdu !» se dit Doutlaf ému. Mais le commissaire lui rendit l'enveloppe. « A-t-il de la chance, morveux » dit-il. « Cela se trouve très bien, » répondit Yegor Ivanovitch. « Il vient de conduire son neveu au régiment. Il pourra maintenant lui acheter un remplaçant. » « Ah !» fit le commissaire. « Achètes-tu un remplaçant pour Ilyushka ?»« Comment faire ? M'y aurait-il assez d'argent ? M'y aura-t-il assez d'argent ? Et puis, je pense que c'est trop tard. »« Cela te regarde, » dit l'intendant en se dirigeant vers la cabane. Ils entrèrent dans l'antichambre où les gardiens les attendaient avec des lanternes. Doutlaf les suivait. Un silence régnait. « Où est-ce ? » demanda le commissaire. « Ici, » répondit Yegor Ivanovitch à voix basse. « Efimka, tu es jeune, » ajouta-t-il. « Prends la lanterne et monte le premier. » Efimka semblait avoir oublié sa terreur.
Ils montaient l'échelle, quatre à quatre, en se retournant de temps en temps pour éclairer le chemin avec la lanterne. Derrière le commissaire marchait Yegor Ivanovitch. Lorsqu'ils disparurent dans l'ouverture du grenier, Dutlov fit un pas pour avancer, soupira et s'arrêta. 2 minutes environ s'écoulèrent, leurs pas s'éloignèrent, ils s'approchaient du cadavre probablement. « Oncle, on t'appelle !» cria Efimka en montrant sa tête par l'ouverture du grenier. Dutlov grimpa. La lanterne éclairait l'intendant et le commissaire, et derrière eux, quelqu'un se tenait debout. C'était Polikei. Dutlov monta enfin et fit le signe de croix. « Retournez le cadavre !» ordonna le commissaire. Personne ne bougea. « Elimka, tu es un jeune garçon !» dit l'intendant. Le jeune homme ne se le fit pas répéter. Il prit Polikei à bras le corps et le retourna. « Encore un peu !» Il retourna encore le cadavre. « Défaites la corde !»« Faut-il couper la corde ?»« Boris Ivanovitch ?» demanda Yegor Ivanovitch. « Donnez donc une hache, vous autres !» Les gardiens et Dutlov n'osaient faire un pas. Quant à Efimka, il empoignait le cadavre comme si c'était un mouton qu'on venait de tuer. On finit par couper la corde et par étendre Ilitch sur le plancher. Le commissaire dit qu'il n'avait plus rien à faire, que le médecin viendrait demain, et on se dispersa. Dutlov se dirigea vers sa cabane. L'impression triste qu'il avait éprouvée à la vue du cadavre s'effaçait à mesure qu'il approchait de sa demeure, et une joie immense s'emparait de lui à l'idée de la fortune qu'il avait dans sa poche. De tous côtés, on entendait des chants et des querelles de paysans ivres. Dutlov, qui n'avait pas bu de sa vie, passa tranquillement devant les cabarets. Il était tard lorsqu'il revint chez lui. Sa vieille femme dormait depuis longtemps. Le fils aîné et ses enfants ronflaient sur le poêle. Le second fils était absent. Seule la femme d'Ilyushka ne dormait pas. Vêtue d'une chemise sale, la tête décoiffée, elle hurlait en balançant son corps. En entendant les pas de son oncle, elle ne se leva pas pour lui ouvrir, mais se remit à hurler de plus belle. La vieille Dutlov trouvait que sa bru savait très bien hurler malgré son jeune âge. Dutlov, en entrant, appela sa femme, qui se leva à la hâte pour lui donner à manger. Les larmes et les paroles incohérentes que prononçait la jeune femme finirent par agacer le vieux. « Cesse donc !» lui dit-il, « et laisse-moi tranquille !» Il soupa en silence, fit ses prières, se lava les mains et se retira dans son petit réduit, accompagné de sa femme. Après avoir eu une longue conversation avec elle à voix basse, il ouvrit le coffre, le referma et descendit à la cave. Lorsqu'il rentra dans la cabane, la chandelle était consumée, une obscurité complète y régnait. La vieille ronflait, étendue sur un banc de bois. La femme du conscrit dormait tranquillement. Dutlov la regarda, secoua la tête, fit ses prières et monta sur le poêle où il se coucha à côté de son petit-fils. Il ne pouvait s'endormir et se retournait sur un côté, puis sur l'autre. La lune se leva enfin et éclaira la cabane. Il put distinguer sa bru étendue par terre. Quelque chose se trouvait à côté d'elle qu'il ne pouvait bien voir. Était-ce une tonne ou quelque ustensile de ménage oublié là? Il s'assoupit pendant quelques secondes, se leva en sursaut, regarda autour de lui d'un œil effaré. L'esprit malin qui avait été cause de la mort d'Ilitch semblait se promener dans le village et vouloir venir se loger dans la cabane où se trouvait la lettre fatale. Doutloff, terrifié, sentait sa présence. En apercevant l'objet qu'il ne pouvait bien distinguer, il pensa à Liouchka, les mains attachées derrière le dos, à sa jeune femme, à Ilitch, pendu au grenier. Tout à coup, il lui sembla que quelqu'un passait devant la fenêtre. « Qu'est-ce que cela peut être ?» se demanda-t-il. « Est-ce le bailli qui vient réclamer sa part ?»« Mais comment a-t-il pu ouvrir ?» continua-t-il en entendant des pas dans l'antichambre. « Oh, la vieille n'aura pas fermé le loquet. » Un chien se mit à hurler dans la cour, et lui, comme le racontait après le vieux, il avançait toujours à pas lents, comme s'il cherchait la porte, tantôt tâtant le mur avec la main. Il s'accrocha au tonneau d'eau qui se trouvait dans un coin et manqua le verser. Et de nouveau, il se remit à fouiller en cherchant la porte. Une sueur froide couvrit la figure du vieux Doutloff. La porte s'ouvrit enfin, et il entra ayant pris la forme humaine. Doutloff savait bien que c'était lui, L majuscule. Il voulut faire le signe de la croix, mais il ne put lever le bras. Il s'approcha de la table couverte d'une nappe et la jeta par terre. Puis il se mit à grimper sur le poêle. Le vieux vit qu'il avait pris la forme d'Ilitch. Les mains pendant le long du corps, il souriait en le regardant. Une fois sur le poêle, il se coucha sur le vieux et se mit à l'étouffer. « C'est mon argent !» disait-il. « Laisse-moi, je t'en prie !» voulait dire le vieux, mais il ne pouvait desserrer les dents. Le poids d'Ilitch lui semblait une montagne de pierre. Le vieux n'en pouvait plus. Il savait qu'il suffisait de réciter une certaine prière pour qu'il disparaisse, mais il ne pouvait proférer une parole. Dans sa lutte avec l'esprit malin, il avait serré son petit-fils contre le mur. L'enfant pleurait et se débattait. Ses cris délièrent la langue du grand-père. « Dieu ressuscité !» s'écria-t-il. L'esprit le relâcha un peu. « Que tes ennemis se dispersent !» continuait-il. L'esprit descendit du fourneau. Doutloff l'entendit toucher terre avec ses deux pieds. Il disait toutes les prières qu'il connaissait. L'esprit malin se dirigea vers la porte et en sortant la ferma avec une telle violence que toute la cabane fut secouée. Tout le monde dormait, sauf le vieux et l'enfant, qui pleuraient et se serraient contre son grand-père. Le silence se rétablit enfin. Le coq chanta trois fois. Les poules se réveillèrent. Quelque chose bougea sur le poêle. C'était le chat qui sauta à bas et miaula près de la porte. Doutloff se leva, alla ouvrir la croisée. Il sortit dans la cour et se dirigea vers les chevaux en faisant le signe de la croix. On voyait qu'il avait passé par là. La jument avait renversé son avoine et les pieds embarrassés dans sa bride attendaient qu'on vînt à son secours. Le poulain était renversé sur un tas de fumier. Le vieux le releva, débarrassa la jument, leur remplit la mangeoire et retourna dans la cabane. La vieille était déjà debout et allumait le feu. Réveille les enfants, je m'en vais en ville, lui dit-il, en se dirigeant vers la cave. Lorsqu'il revint, le feu était déjà allumé chez tous les voisins. Ses fils faisaient les préparatifs de départ. Le vieux, sans regarder ses enfants, endossa son cafetan neuf, mit sa ceinture et l'enveloppe cachée dans sa poitrine, se dirigea vers le comptoir. « Je ne te conseille pas de l'embiner, entends-tu? Je reviens tout de suite, que tout soit prêt !» L'intendant venait de se lever, assis devant la table, il prenait le thé. « Que me veux-tu ? » « Moi, Igor Ivanovitch, je vais racheter mon garçon. Vous me disiez l'autre jour que vous connaissiez un remplaçant. Ayez pitié de notre ignorance. Apprenez-moi ce que je dois faire. Tu as donc changé d'avis ? » ?»« Oui, monsieur, c'est l'enfant de mon frère. Cela me fait de la peine. L'argent entraîne toujours le péché. J'aime mieux le plus en avoir. Je compte sur votre bonté, répéta le vieux, s'inclina devant l'intendant. Igor Ivanovitch, après avoir pris une mine grave et sérieuse, écrivit deux lettres et lui expliqua tout ce qu'il avait à faire. Lorsque Doutlov revint chez lui, son fils Ignat et sa bru étaient partis. Sa petite charrette l'attendait devant la porte. Il arracha une branche, s'assit, prit les guides et fouetta le cheval qui partit au trot. L'idée qu'il arriverait trop tard, qu'Ilyusha serait déjà expédié aux casernes et que l'argent du malin resterait entre ses mains ne lui laissait aucun repos. Nous n'entrerons pas dans les détails de toutes les courses que le vieux eut à faire. Disons seulement qu'il eut une chance extraordinaire ce jour-là. La personne chez qui l'intendant l'avait envoyé lui proposa un remplaçant tout disposé à se vendre. Il demandait 400 roubles à un paysan qui depuis 3 semaines ne lui en offrait que 300. Doutlov termina l'affaire en quelques mots. « Prends-tu 300 et un quart ? » dit-il en lui tendant la main, d'un air qui indiquait qu'il était tout disposé à donner davantage. L'autre persistait à demander davantage. Tu ne veux pas prendre 300 et un quart, tu veux décidément pas. Eh bien, que le bon Dieu te bénisse. Prends 300 et demi. Prépare-moi un reçu, amène le garçon. Tiens, voici 2 rouges d'avance. » L'autre avait l'air d'hésiter et ne prenait pas l'argent que Doutlov lui tendait. « Nous sommes tous mortels, » insistait-il en lui offrant l'argent. « Cède donc, allez, pense à mon pauvre garçon. » « Il n'y a rien à faire, » répondit l'autre enfin en faisant le signe de la croix. « Que Dieu vous assiste. » On réveilla le remplaçant qui, ivre depuis la veille, dormait étendu par terre. On l'examina et on partit. Chemin faisant, le remplaçant insistait pour qu'on lui offrît du rhum pour se rafraîchir. Doutlov lui donna de l'argent pour s'en acheter. Entré dans la maison où se faisait le recrutement, ils restèrent longtemps dans l'antichambre sans savoir à qui s'adresser ni où aller. Le remplaçant commençait déjà à reprendre courage. Le vieux Doutlov se désolait lorsqu'il aperçut Igor Ivanovitch. Il le saisit par le pan de sa redingote et le supplia de lui venir en aide. Igor Ivanovitch s'y prit si bien que vers 3 heures tout fut terminé. Le remplaçant fut reconnu bon pour le service. 5 minutes plus tard, Doutlov compta la somme au marchand, reçut la quittance et se dirigea d'un pas léger et content vers la maison où se trouvaient les recrues de Postorski. Ilia et sa jeune femme, assis dans un coin, se parlaient en chuchotant. Aussitôt qu'ils virent entrer le vieux, ils cessèrent leur conversation et le regardèrent d'un air méfiant. Le vieux, selon son habitude, commença par faire le signe de la croix, puis il enleva sa ceinture et sortit de sa poche intérieure un papier. Il appela alors son fils aîné, la mère d'Ilyushka. « Ilyushka, tu m'as dit une parole bien dure l'autre soir. C'est un grand péché. Crois-tu que je ne te plains pas ? Bon, je me souviens, comme si c'était hier, du jour où ton père t'a confié à moi. Si je l'avais pu, crois-tu que je n'aurais pas fait mon possible pour te garder avec moi ? Dieu m'a envoyé une grande joie, et j'en ai profité, pour le libérer du service. Voici le petit papier, dit-il en posant la quittance sur la table et en le déployant de ses vieux doigts crochus. Tous les ouvriers du marchand, les paysans de Popsovski et les recrues envahirent la pièce. Ils devinaient de quoi il s'agissait, mais personne n'osa interrompre le vieux, qui de sa voix solennelle continua. « Voici le papier en question. Je l'ai payé 400 roubles. Ne fais plus de reproches à ton vieil oncle. » Ilyushka se leva. Son émotion l'étranglait. Il ne put proférer une seule parole. Sa vieille mère voulut se jeter au cou de son fils, mais le vieux l'éloigna d'un geste impérieux et continua. « Tu m'as dit une parole hier, une parole que je ne puis oublier. Elle m'a fait tout aussi mal que si l'on m'enfonçait un couteau dans le cœur. Ton père t'a confié à moi. Je t'ai toujours traité comme mon propre enfant. Allez, si je t'ai fait du tort, je suis pécheur comme tout le monde. Ai-je raison, chrétien ? » dit-il en s'adressant aux paysans. Voici ta mère, voici ta femme. Tenez le reçu. Pardonnez-moi au nom du Christ si je vous ai fait du tort sans le vouloir. » Il se baissa, se mit à genoux et se prosterna aux pieds d'Ilyushka et de sa femme. Les jeunes gens avaient beau le retenir, c'était en vain. Il toucha la terre de son front, se releva et s'assit sur le banc, tout essoufflé. La mère d'Ilyushka et sa jeune femme hurlaient de joie à qui mieux mieux. On entendait dans la foule des paroles d'approbation et même d'admiration. « Il agit selon Dieu et la justice, » disaient les uns. « Qu'est-ce que l'argent ? On ne peut acheter un fils avec de l'argent. Quelle joie pour la famille, » entendait-on d'un autre côté. « Il n'y a rien à dire, c'est un homme équitable et juste. » Seuls les autres recrues ne disaient rien et ne prenaient aucune part à cette joie commune. 2 heures plus tard, les deux charrettes des Doutlov reprenaient le chemin du village. Dans la première étaient assis le vieux et son fils Ignate. Un paquet rempli de thé, de galettes et autres bonnes choses se trouvait à leurs pieds. La vieille mère et la jeune femme se trouvait avec Ilyushka dans la seconde charrette, la tête couverte d'un mouchoir, heureuses et tranquilles. La jeune femme tenait en main un flacon d'eau-de-vie. Ilyushka, tout rouge, causait avec animation en mangeant un morceau de pain. Les chevaux, abandonnés à eux-mêmes, avançaient avec plus de rapidité. Les passants se retournaient involontairement en voyant les figures épanouies des paysans. Au moment de quitter la ville, ils rencontrèrent les recrues qui étaient groupées autour d'un cabaret. L'un d'eux, avec l'air gêné qu'ont les personnes auxquelles on a rasé les cheveux, la casquette sur la nuque, pinçait de la balalka, un autre un flacon d'eau-de-vie à la main, dansait au milieu d'un cercle de curieux. Ignat arrêta son cheval pour arranger la bride
et tous les Doutlof regardèrent avec attendrissement le danseur. Le conscrit semblait ne rien voir. Il sentait que la foule des spectateurs allait en augmentant et dansait avec plus d'entrain. Les sourcils froncés, la figure immobile, le sourire aux lèvres, il dansait avec une adresse surprenante. Il semblait que tous ses efforts tendaient à tourner avec le plus de rapidité possible. De temps en temps, il clignait de l'œil aux musiciens qui se mettaient à jouer avec plus d'entrain. Immobile pendant quelques secondes, il s'élançait de nouveau, faisait des sauts périlleux et recommençait à tourner sur place. Les enfants riaient, les femmes secouaient la tête, les hommes regardaient avec approbation. Le musicien, fatigué, fit un accord faux et s'arrêta. « Hé, Aleshka !» cria-t-il au danseur, en lui montrant Doutlof du doigt. « Voici ton parrain !»« Où cela, mon cher ami ?» cria Aleshka, le conscrit que Doutlof avait acheté. Il traînait ses pieds, fatigué par la danse, et élevant le flacon d'eau-de-vie au-dessus de la tête, il s'approcha de la charrette. « Mishka, un verre et vivement ! Quelle joie, mon cher ami, de te voir » criait-il en chantant. Et versant de sa main tremblante de l'eau-de-vie dans les verres, il en offrait aux femmes et aux hommes. Les paysans burent, mais les femmes s'y refusèrent. « Mais que pourrais-je vous offrir, mes chères âmes ?» criait Aleshka en les embrassant. Une marchande se tenait à côté, un panier de friandises à la main. Il le lui arracha et en versa le contenu dans la charrette. « N'aie pas peur, je paierai pour tout le monde, que diable » hurla-t-il d'une voix pleurnicheuse, en sortant de sa poche une bourse avec de l'argent. « Où est ta mère ?» demandait-il. « C'est toi ? Eh bien, je lui donnerai aussi un cadeau. » Il mit la main dans sa poche, en sortit un mouchoir neuf, enleva un essuie-main qui lui entourait la taille, ôta un mouchoir rouge qu'il portait au cou et jeta le tout à la vieille. « C'est pour toi, je te le donne !» Mais sa voix devenait toujours plus mélancolique. « Pourquoi cela, mon pauvre garçon ? Quel cœur simple !» disait la vieille avec attendrissement. Aleshka baissait toujours la tête davantage et continuait. « Mais c'est pour vous que je m'en vais. C'est pour vous que je me sacrifie. C'est pour cela que je vous offre des cadeaux. » « Il a peut-être une mère encore ?» cria une voix dans la foule. « Cœur simple, va !» Aleshka releva la tête. « Si j'ai une mère, mais certainement, et un père aussi. Ils m'ont tous renié. » « Écoute-moi bien, vieille, » ajouta-t-il, en saisissant la mère d'Ilyushka par la main. « Je t'ai fait des cadeaux. Écoute-moi, au nom du Christ. Tu iras au village Vodnoye. Tu demanderas la vieille Nikonov. C'est ma mère, comprends-tu bien ? Tu lui diras à cette vieille Nikonov que son Aleshka... Non, 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 je ne puis continuer. Enfin, tu lui diras que son fils... Ah, allons, musicien, recommence. Et jetant le flacon d'eau de vie par terre, il se remit à danser comme un possédé. Ignat remonta dans la charrette et donna un coup de fouet au cheval. « Adieu, que Dieu t'assiste !» crie la vieille mère d'Ilyushka, les larmes aux yeux. Aleshka s'arrêta. « Mais allez donc tous au diable tant que vous êtes » cria-t-il, les menaçant de ses deux poings. « Que le diable les emporte !»« Oh, Seigneur mon Dieu !» soupira la vieille en faisant le signe de la croix. Les deux charrettes partirent. Aleshka, au milieu de la route, les regardait s'éloigner, les poings serrés, les yeux injectés, les maudissant. Pourquoi vous arrêtez-vous ? Allez-vous-en, démon, canaille ! Criait-il. Je vais vous rattraper, rustre, rustre ! Épuisé, il tomba par terre. Bientôt après, les Doutelaf furent assez loin pour ne plus entendre les imprécations du pauvre conscrit. Le vieux s'était endormi. Ignat, tout doucement, descendit de sa charrette et s'approcha de celle de son cousin. Ils partagèrent le flacon d'eau-de-vie que la jeune femme tenait à la main. Ilyushka entonna une chanson. Ignat, qui marchait à côté de lui, jetait un cri de joie de temps en temps. La jeune femme se joignit à eux, et la vieille couvait ses enfants d'un œil attendri.